Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Gilets jaunes, colère noire, assez du racket fiscal, gaulois en colère, fâchés mais pas fachos, voilà quelques-uns des slogans que l'on pouvait voir fleurir ces derniers jours aux quatre coins de la France, le plus souvent en marqueur sur des gilets jaunes. La France d'en bas, comme on aime à la nommer, tape du pied et du poing, essorée par la pression fiscale et découragée par des fins de mois trop justes. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis, eux, affichent un taux de chômage sous la barre de 4% et une croissance au-dessus, des chiffres qui font rêver mais suffisent-ils à expliquer les résultats des dernières élections américaines. États-Unis et France, il y a en tout cas une actualité terrible qui nous unit, la guerre au Yémen. Cette guerre oubliée, comme on l'appelle, une guerre civile dans laquelle l'Arabie Saoudite, à la tête d'une coalition arabe, bombarde avec nos armes des populations civiles jusqu'à se rendre coupable, dit-on, de crimes de guerre. Le grand débat, c'est donc l'émission Vivante Église de ce matin. Voilà, content de vous retrouver, puisque les invités tournent. C'est à chaque fois des bonnes surprises. Bruno Cyr, vous êtes président honoraire de l'Université Toulousain Capitole. Bonjour.
Bonsoir.
Anne de la Doucette, cofondatrice de la formation Passeur d'Hommes. Bonjour. Parlez bien devant le micro. Tanguy Marie Pouliquen, prêtre de la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et Patrice de Plainquiette qui nous rejoindra, journaliste et essayiste français, auteur notamment de Cato, Ne devenons pas une secte, paru aux éditions Salvatore, qui est chroniqueur à notre antenne et qui sera notre VIP de ce jour, puisque, je vous le rappelle, nous sommes encore en plein radiodon. Et Thibaut de Tuile, ce matin, à peine étais-je arrivé, m'a dit: Emmanuel, il faut que tu sollicites les auditeurs, que tu les sensibilises, car le compte n'y est pas. Je vous rappelle qu'on vise donc les 40 000 euros pour ce radiodon. Ce sont voilà, des besoins fondamentaux de la radio. Je les redétaillerai au long de l'émission pour couvrir nos frais. Si vous aimez notre radio, si vous aimez cette émission, eh bien soutenez-nous. Je vous redonnerai plusieurs fois pendant le cours de l'émission le numéro 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. On va commencer avec vous, Bruno Cyr. Pourquoi avez-vous accepté de venir à Radio Présence et que pensez-vous de cette radio?
Moi, j'aime les valeurs humanistes et je les retrouve à Radio Présence. Et c'est pour ça que je suis heureux de venir témoigner et très, très flatté que vous m'ayez demandé de le faire modestement, de contribuer, parce que je trouve qu'il y a dans cette radio de l'ouverture d'esprit, du respect des autres, des valeurs qui correspondent à ma religion, qui est aussi la vôtre, et qui correspondent aux valeurs humanistes de la France, à laquelle j'ai toujours adhéré.
Voilà, et ben merci beaucoup en tout cas. Et puis je demanderai aux autres au cours de l'émission pourquoi ils viennent à Radio Présence, à ce micro. On sait qu'ils sont des soutiens fidèles de la radio. On va commencer par les élections américaines. C'est le sujet peut-être qui date le plus dans cette grande rétrospective mensuelle. Voilà, les élections de mid-term, comme on les appelle, pour renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et 35 sièges, je vais y arriver, au Sénat sur 100. C'était donc le 6 novembre dernier. 100 millions d'Américains se sont rendus dans les urnes. Et contrairement à ce qui avait été peut-être annoncé ou craint par certains, ou espéré par d'autres, ça n'a pas été une vague démocrate, même si les démocrates ont repris la Chambre des représentants et sa majorité. Les républicains ont, eux, pris la majorité au Sénat. Il y a pas mal de choses à dire. Entre autres, j'ai noté, je ne sais pas si c'est une manière de lancer la conversation, que nombre de femmes étaient rentrées à la Chambre des représentants. Jamais autant de femmes siégeront à la Chambre des représentants, 95 femmes. Voilà, il y a aussi des gays, différentes communautés ethniques, deux femmes musulmanes dont une voilée et deux femmes amérindiennes. Anne de la Doucette, cette élection dessine-t-elle en partie la société multiculturelle que vous avez parfois à ce micro dénoncé, ou en tout cas vous avez mis des réserves sur ce rêve multiculturel?
Moi, je n'ai rien contre la diversité à la Chambre des représentants à partir du moment où elle sert le bien commun. Ce qui m'a beaucoup marqué lorsque j'ai lu les articles sur cette élection, c'est qu'on ne faisait référence qu'aux références chez les démocrates, qu'aux références à leur caractère ou sexuel, ou ethnique, ou spirituel de leurs représentants. Qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, je m'en fiche. Ce que je veux, bon, en tout cas pour moi, si j'étais américain, c'est qu'on défende le bien commun des États-Unis.
Alors qu'est-ce que vous laissez entendre par là ? C'est-à-dire que
le bien
pourquoi
commun,
le positionnement des démocrates vous a d'une certaine manière choqué ?
Parce que le démocrate, c'est ce qu'a développé M. Obama pendant 8 ans, et il n'a fait qu'accroître la cassure sociale aux États-Unis. Elle n'a fait que s'accroître pendant 8 ans. Je crois que le rôle d'un... On vient avec ses convictions au Parlement. Mais on vient là pour défendre le bien de tous. Et peut-être qu'on voit la chose différemment. On n'est pas là pour brandir des revendications, des droits des minorités. Et ce n'est pas parce qu'on est une minorité qu'on est une victime. Parce que maintenant, dès qu'on est une minorité, on est une victime. Donc je crois que c'est pas forcément le cas.
J'ai souvenir à cette même antenne et dans une autre émission, Le Grand Débat, du frère Emmanuel Perrier, dominicain, qui intervient de temps en temps dans Le Grand Débat, qui disait j'essaie de résumer ses propos, comment faire société, je sais pas si c'était son expression, en tout cas comment être un seul peuple quand justement on est peut-être d'abord une minorité, une addition de minorités avec des revendications.
Et puis moi je ne me définissais pas juste parce que je suis hétérosexuel, parce que je suis blanc, non. Je suis une personne entière. Et je trouve que limiter les gens à leur ethnie, leur religion ou leur appartenance sexuelle, c'est très, très restrictif. Ce n'est pas rendre... Je suis sûre que ces personnes ont d'autres qualités qu'être hétérosexuelles, transsexuelles. Voilà, je laisse la parole à
d'autres. Tanguy-Marie Pouliquen, cette élection que Donald Trump a saluée comme un immense succès en disant merci à tous.
Alors, la question, elle se pose à l'intérieur des États-Unis, mais elle se pose de la position des États-Unis par rapport aux autres pays. Et donc là, la position de Trump, position constante, c'est de sortir d'un multilatéralisme, d'un monde multipolaire, qui vise dans un dialogue consensualiste à une relativisation des valeurs. Et donc Trump, il veut, c'est à sa manière, retrouver cette priorité nationale, voire nationaliste, à travers une posture de la démocrature. Hein, vous savez, cette expression qui vient de sortir maintenant, cet acronyme, cette croisée entre la dictature et démocratie, ça fait la démocrature et le symbole en a été la passe d'armes qu'il y a eu entre le président de la Cour suprême et M. Trump, et ce recadrage par le président de la Cour suprême de la posture des valeurs fondamentales, et que ce n'est pas le politique qui détermine les valeurs qui traversent tous les partis. D'ailleurs, ce président, ayant été élu lui-même par Bush, ne peut pas se revendiquer d'avoir été un élu de démocrate. Donc derrière cette élection, il y a à l'extérieur cette tension avec les pays, la fin d'un multilatéralisme, d'un multipolarisme. D'ailleurs, chacun qui va créer des rapports de force, mais on sait que la politique américaine, elle est conduite par volontairement créer des tensions pour renégocier de manière bilatérale les accords avec les pays et sortir des accords multilatérales. Et ça engage des tensions à l'extérieur et à l'intérieur.
Bruno Cyr, votre réaction avant que je vous pose une question sur le vote des catholiques américains.
Ma réaction d'abord, c'est pas du tout une victoire pour Trump, hein, il faut pas se tromper.
S'est-il trompé alors ?
Oui, non,
immense
non, mais,
succès.
Oui, immense succès, mais enfin le lendemain, il était moins fanfaron.
Téléréalité.
Ils ont perdu, les républicains ont perdu 38 sièges à la Chambre des représentants et au Sénat, ils ont gagné un siège. Et la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, les républicains sont minoritaires. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est que Trump est obligé de vivre avec ce qu'on appelle en France une cohabitation. C'est ça, sa réalité. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne pourra pas faire. Par exemple, deux choses qui sont particulièrement symboliques dans son programme. Un, il ne pourra pas construire le mur avec le Mexique.
Il avait déjà été commencé à être construit par Obama.
Il a commencé à être construit, mais
Obama.
Ça va s'arrêter parce que la Chambre des représentants a dit qu'elle n'était pas d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui ne sera pas fini. Et personnellement, je trouve quand même que c'est une bonne chose parce que cet enfermement sur soi de la part d'une grande puissance n'est pas une preuve de force. Hein, les gens qui s'enferment, c'est des gens qui ont peur. Et la deuxième chose, c'est l'abrogation de l'Obamacare, qui était quand même une avancée, qu'on le veuille ou non, sur la protection sociale pour les plus pauvres, eh bien ça, il ne pourra pas le détruire comme il s'était engagé à le faire, parce que la Chambre des représentants a dit qu'elle ne serait pas.
Même si, à l'occasion d'une conférence de presse au lendemain de ces résultats, il a laissé entendre que sur les questions de santé, d'infrastructure et de commerce, ils arriveraient à s'entendre avec les démocrates. Voilà, moi, j'avoue que quand j'ai lu la santé, en effet, j'étais un peu interrogatif.
Mais il parle beaucoup.
Un des chiffres qui est très parlant, c'est les gouverneurs. C'est-à-dire que maintenant, il y a 35 gouverneurs qui sont démocrates et 15 gouverneurs qui sont républicains. Donc, il y a eu un renversement complet. Ouais. Ça veut dire quand même qu'il y a eu, d'un point de vue quantitatif, une inversion des
Alors, de c'est vrai que ce n'est pas un raz-de-marée anti-républicain, comme souvent dans les élections intermédiaires, et c'est vrai dans toutes les démocraties, on a tendance à le faire et les votes souvent le dénoncent. Donc Trump dit, puisque c'est pas un échec retentissant, c'est une victoire. Mais enfin, je trouve qu'il va un peu vite. C'est quand même un échec relatif et en tout cas, il n'a plus la majorité à la Chambre des représentants. Donc je pense que ça va être plus compliqué pour lui. À présent, il reste l'international, parce que c'est la question qu'on traitait sur l'international.
Il a tous les pouvoirs encore.
Il a beaucoup de pouvoirs.
Je voulais juste faire écho donc à un article que j'ai trouvé dans le journal La Croix sur le vote des catholiques aux États-Unis, qui laisse entendre que les catholiques sont extrêmement divisés, en tout cas politiquement, qu'ils auraient voté à une courte majorité démocrate, 50%, contre 49% pour les républicains. On peut aussi noter que les juifs, eux, votent très largement démocrate et que les protestants, eux, ont voté davantage républicains. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais en tout cas, je trouvais que c'était important de le souligner, Anne de la Doucette.
Mais c'est important, c'est un peu étonnant que les Juifs votent démocrate avec ce que fait Trump en Israël. Ça me paraît pas, c'est sûr que ça me paraît très étonnant.
Oui, 79% contre 17% pour les Républicains.
Je suis sûr qu'il n'y a pas une erreur, ça me paraît très énorme.
Peut-être que le journal La Croix se trompe, mais en tout cas, je sais lire ma fiche.
Ça me paraît. Alors, moi, ce que je vois juste, je ne trouve pas que le personnage soit très sympathique, mais que j'ai un cousin américain hier au téléphone qui n'était pas tellement pour lui, et qui m'a donné plusieurs articles qui viennent des États-Unis. Et ce qui est frappant, c'est qu'au bout d'un an et demi d'être en place, il a fait plus que n'importe quel président américain sur son programme. C'est-à-dire que ce qu'il a dit qu'il ferait, il l'a fait. Eh bien, on aimerait bien peut-être avoir, malgré toute la façon dont il se comporte, on aimerait bien parfois avoir des hommes politiques.
Alors, citez votre source peut-être, parce que ça veut dire qu'il y a une étude systématique depuis toutes les élections américaines sur l'application des différents programmes.
Non, je vais vous le dire, je vais mettre...
Voilà. Allez-y, c'est pas grave.
C'est Sherman Manstaver qui dit en un an et demi, le président, ça faut que je traduise dans lui directement. En un an et demi, le président Donald Trump et ses politiques ont fait plus pour avancer la liberté religieuse, l'économie, la dérégulation, les réformes de gouvernement et Israël que toute l'histoire américaine.
Et quelle est la source de presse, vous dites
C'est Canada Free Press.
Alors, Tanguy Marie Poulikin, un commentaire.
Je peux vous donner des exemples sur l'économie, ce qu'il a fait, les mesures qu'il a prises.
Ce qui est intéressant par rapport à cette élection, c'est la mobilisation de la société civile à travers le taux de participation. Et le taux de participation à ces élections a été plus de 30%. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement de la société civile. Et ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est le gage d'une démocratie saine, en mouvement, qui débat, qui se confronte. Si les gens on peut comparer ça aux élections partielles législatives de Meaux, là. 19% de participation. Là, c'est quand même pas terrible. Il y a plutôt le reflet d'une petite dépression lancinante. Aux États-Unis, ça se mobilise, ça bouge.
Alors, je veux donner trois chiffres. La baisse des demandes.
Parlez bien devant le micro.
La baisse des demandes d'emploi est au plus bas niveau depuis 1969. Les demandes de l'emploi des jeunes est au plus bas niveau depuis 52 ans. Les investissements en affaires ont augmenté de 39%. les permis de construction ont augmenté, sont au plus haut point depuis 2007. Voilà.
Ça fait déjà pas mal d'exemples. J'avais quand même, juste peut-être pour vous lancer aussi, peut-être une réaction aussi sur la démocrature, parce que le mot est quand même fort. Vous avez l'air de l'utiliser, en tout cas à l'adresse de M. Trump, Tanguy-Marie Pouliquen. Quid des sorties de Donald Trump à l'égard des journalistes et à l'égard maintenant des juges? Il a dans son viseur donc le procureur Mueller, qui est chargé donc d'enquêter sur ce fameux Russia Gate, donc tentative d'ingérence de la Russie dans les élections américaines de 2016. Est-ce que vous utiliseriez ce terme les uns les autres, Bruno Cyr, de démocrature ?
Moi, ce n'est pas un terme qui est dans mon vocabulaire, mais je comprends très bien que c'est un terme qui puisse dire quelque chose. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit dans le dictionnaire encore aujourd'hui, mais ça le deviendra peut-être. Oui, on voit bien ce que ça veut dire. Mais je veux revenir sur un point concernant la démocratie. En fait, en démocratie, quand les gens vont voter, c'est parce qu'il y a un enjeu. Et ce n'est pas parce que les gens ne vont pas voter, hein, s'abstiennent beaucoup, qu'ils sont moins démocrates. C'est simplement qu'ils se disent, il n'y a pas d'enjeu. Donc dans les élections partielles françaises, hein, puisqu'on parlait, on prenait cet exemple, 19% de votants, bon, mais effectivement, le type se dit, qu'il y ait un député de plus ou de moins qui soit de telle ou telle étiquette, ça ne changera rien au problème. Il y a une telle majorité aujourd'hui derrière Macron que... Donc il n'y a pas d'enjeu. En revanche, quand vous mettez des extrêmes en présence ou en possibilité d'extrême face à des gens modérés, là, les gens considèrent qu'il y a un enjeu et là, ils vont voter. Et c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que Trump ne laisse pas indifférent et donc les gens se sont mobilisés parce qu'ils ont estimé qu'il y avait un enjeu fort.
Voilà, on va faire une première pause. Je vous rappelle, chers auditeurs, que si ces émissions vous intéressent, eh bien, il faut nous soutenir. Voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois cette semaine, mais j'aime bien ce chiffre, une heure d'émission, c'est 250 euros. Pour rappel, c'est 750 euros pour France Bleu ou 7000 euros pour France Inter. On se donne du mal, on fait venir des gens qui sont quand même passionnants et ceux de ce matin en font partie. Voilà, si vous pouvez nous soutenir, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou un site internet radioprésence.com. Thank you. Le grand débat, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Voilà, dernière émission de la semaine et dernière émission de cette séquence 2018 du Radio Don. Autour du plateau, Bruno Cyr, président honoraire de l'Université Toulousain Capitole, Anne de la Doucette, cofondatrice de la formation Passeur d'Espérance, Tanguy Marie Pouliquin, entre autres professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse et aussi prêtre, et Patrice de Plainquette, journaliste et essayiste français, auteur notamment de Cato, ne devenons pas une secte, paru aux éditions Salvator, et chroniqueur à cette antenne. Bonjour Patrice de Plainquette.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de prendre 5 minutes. Vous êtes le VIP de ce jour pour nous donner quelques éléments quant à la raison de votre participation à cette antenne. Peut-être pour vous présenter, pouvez-vous nous dire quelques mots de votre chronique et nous donner un exemple avec la dernière de cette semaine qui, je crois, tournait autour des Gilets jaunes.
C'est une chronique de journaliste, c'est-à-dire que je pars des événements de l'actualité et j'essaie modestement de trouver un angle pour les mettre en perspective et, si possible, le raccorder avec la vision que des chrétiens peuvent avoir des besoins de la société d'aujourd'hui.
Ah, pouvez-vous nous dire en quelques mots, peut-être nous résumer quel était l'objet ou le propos de votre chronique à propos des Gilets jaunes ce début de semaine ?
Eh bien oui, c'est l'incompréhension croissante, la spirale d'incompréhension qui semble opposer entre eux des pans entiers de la société française. Dans l'affaire des Gilets jaunes, c'est toute une France périphérique qui s'estime, et semble-t-il en très grande partie à juste titre, délaissée par les élites dirigeantes, politiques, économiques, etc., d'un côté, et de l'autre côté, justement, ces élites, le bloc politique majoritaire et les dirigeantes de la société française dans le cadre, naturellement, de la nouvelle vision qui est, dit-on, une modernisation accélérée de cette société. Or, cette modernisation, elle est très mal ressentie par la France périphérique. Alors, comment trouver un langage commun ?
Alors, vous citiez le pape François dans votre chronique. Qu'est-ce que le pape François vient faire au milieu des Gilets jaunes ?
Le pape François, précisément, met l'accent dans tous ses textes sociaux, dans l'encyclique Laudato aussi, par exemple, mais également dans tous ses grands discours, particulièrement les discours au mouvement populaire, et dans toutes les audiences au Vatican dans lesquelles il aborde les questions sociales, met l'accent sur l'importance pour les dirigeants de sortir de leur zone de confort mental et de la zone de leurs intérêts habituels pour aller à la rencontre des faibles de notre société, à la rencontre des gens qui ne font pas partie des milieux à carrière, des gens qui se considèrent comme les perdants sans que ce soit de leur faute parce qu'ils se contentent de faire leur boulot quand ils ont encore un travail et de le faire aussi bien que possible. Ces gens-là considèrent que ce qui leur arrive est terriblement injuste et le pape demande que l'on fasse attention au ressenti de cette France-là, mais c'est également vrai de tous les pays dans lesquels il passe, dans lesquels le pape passe, dans lesquels il va parler aux populations. On ne doit pas laisser s'aggraver le fossé entre dirigeants et dirigés.
Patrice de Plainquette, pour finir, qu'est-ce que vous diriez à propos de notre antenne ? Pourquoi est-ce que vous avez accepté donc de tenir une chronique ? On vous sait, on va dire, capable de dire non, et d'objecter. Si vous avez rejoint cette antenne, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Et pourquoi ça vous semble important de soutenir une radio comme la nôtre ?
Parce que c'est une radio qui fait un excellent travail régional et je crois énormément aux médias de proximité, aussi bien d'ailleurs dans la presse papier que dans les radios. Les médias de proximité exercent aujourd'hui une véritable mission qui est de combler justement ce déficit, ce manque de proximité, ce manque de respect également que ceux qui détiennent l'information doivent avoir envers ceux qui demandent l'information. Et je crois que Radio Présence fait admirablement ce travail-là dans sa région.
Eh ben, merci beaucoup Patrice de Plainquiette d'avoir pris du temps ce matin pour être au micro de Vivante Église. Je rappelle que vous êtes chroniqueur à cette antenne et vous êtes l'auteur entre autres d'un ouvrage « Catho, ne devenons pas une secte » paru aux éditions Salvator. Alors, je ne sais pas s'il y a des gilets jaunes autour de ce plateau, mais en tout cas, on en a fait intervenir à cette antenne. C'est vrai que même quand on est un média régional, eh bien, on peut rapidement peut-être être coupé du terrain. Je vous faisais la remarque en souriant. Je me l'adresse aussi à moi. Que dire pour présenter les gilets jaunes? Je lançais ces slogans en introduction de l'émission. Gilets jaunes en colère, assez du racket, gaulois en colère, fâché mais pas facho. Difficile de résumer en fait peut-être la couleur politique de ce mouvement, parce qu'elle est assez plurielle quand on voit ses différents représentants. Je vous lancerai pour faire écho aux propos de Patrice de Plainquette. C'est des choses qu'on a pas mal lues, mais peut-être aurez-vous des commentaires ciselés. C'est une étude d'un démographe, Hervé Lebras, qui a fait une cartographie donc de la mobilisation des gilets jaunes. Il en est ressorti qu'en effet, c'est d'abord les Français de la diagonale du vide qui se sont mobilisés. Il cite même certains départements, disant que dans certains, on allait jusqu'à plus de 5% de la population qui s'était mobilisée. Tanguy Marie Pouliquen, est-ce la France d'en bas qui sort et qui n'est pas d'abord d'une couleur politique?
Alors, si on prend sociologiquement la France en 5 morceaux, le dernier 20-il, les 20% des Français les plus bas, n'ont pas de trésorerie. C'est-à-dire qu'ils vivent un mois à l'avance. Ce sont les mêmes qui ont du mal à se chauffer, qui ont du mal à se soigner entièrement. C'est-à-dire qu'il y a une logique de survie à travers une partie de la population et le facteur déclencheur marginal de l'augmentation des taxes essence et gasoil vient rajouter la goutte d'eau pour rappeler ben on n'en peut plus, hein, on n'en peut plus. Alors en même temps, le problème, c'est que la revendication, quand elle devient violente, lorsqu'elle devient populiste, risque d'être à l'encontre de la logique républicaine, où ce sont les représentants de l'État qui sont...
On a parlé de poujadisme, par exemple, et les Gilets jaunes n'ont pas supporté cette adresse. C'est une manière de qualifier, ou parfois de dénigrer, en fait, des mouvements populaires en disant, bon, voilà, c'est du populisme bon teint, et tout cela n'est pas très intelligent, d'une certaine manière.
Alors, on disait en exergue de ce chapitre, l'importance de qu'il y ait vraiment ce dialogue constructif entre les représentants politiques et la base, à travers la volonté du pape François, qui a un dialogue. Je pense que le dialogue, directement ou indirectement, est lancé. Ce qu'il faudrait, c'est que il y ait des gestes qui soient réellement faits, et puis que le cap soit clair. Je pense qu'il y a Bruno Frappa disait qu'il y avait un délabrement culturel. Je pense que l'arrière-plan derrière les aspects proprement économiques et sociaux, c'est le plan culturel. Quelle est la culture et quelle est la culture qui forme la vision politique aujourd'hui? On a bien vu aux élections présidentielles que la France allait fracturer. Elle est fracturée en 4 morceaux parce qu'il y a 4 références culturelles qui ne s'accordent pas.
Alors dites-les-nous rapidement pour passer la parole au suivant.
Il y a la frange, la France insoumise, etc., qui est populiste de gauche, revancharde, voire qui n'hésiterait pas aux actions de terrain avec des rapports de force. Vous avez toute la frange démocratie libérale qui va jusqu'à Macron et ses représentants, qui a gagné par levier du législatif et d'une primaire au secondaire. Il y a eu un levier.
Les deux autres.
Les deux autres, c'est la France républicaine. Ok, et puis la France d'extrême droite. Et ces quatre mouvements ne se rencontrent pas dans une vision politique partagée, si ce n'est la défense d'un certain modèle social. Et je dirais simplement, pour terminer, que la pauvreté persistante en France, elle est relativement faible. On est le 4e pays le plus résilient d'un point de vue sociétal. On n'a que 2,5% de pauvres, c'est-à-dire persistants, c'est-à-dire de gens qui restent pauvres plus de 2 ans de suite à 60% inférieur au salaire médian.
Ouais, ça veut dire qu'il y a une... C'est pareil, on ne peut pas vérifier tous les chiffres, mais je demande quand même à vérifier parce que on dit qu'il y a 1 million de pauvres en plus depuis la crise.
Dans Valeurs économiques, ils sont les chiffres 2018-2019, vous pouvez les avoir.
Je vais juste donner un petit élément pour... C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses sur cette crise. C'est vrai, on a beaucoup parlé de la fameuse taxe TIPP, TICPE, taxe intérieure de la consommation sur les produits énergétiques. Ce serait la fameuse taxe écologique sur le prix du carburant. Il faut juste rappeler qu'en effet, l'augmentation a été relativement, faible au regard de l'augmentation du gasoil. C'est pour 23% d'augmentation du gasoil entre 2017 et 2018 et 15% pour l'essence. Voilà. Bruno Cyr.
Oui, c'est évidemment un sujet compliqué parce que dans ce...
Un peu plus court pour qu'on puisse faire...
Dans ce sujet, je vois un premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le dialogue de sourds. Et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Il y a un manque de dialogue, il y a un déficit entre des dirigeants. Mais en même temps, si je veux plaider côté dirigeant, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire il y a que les gilets jaunes qui ont raison, étant donné qu'en plus le message qu'ils délivrent est quand même assez compliqué à décrypter. Donc, mais côté dirigeant, c'est vrai que c'est difficile de comprendre qu'une grande majorité de Français se déclare pour une transition écologique, pour la défense de la planète, pour la défense de l'environnement, mais quand on met une taxe carbone qui touche tout le monde, et il n'y a pas d'autre façon de faire. Le carbone, si on veut réduire la consommation de carbone, il y a bien un moment où il va falloir que ça coûte plus cher, et tout le monde paiera ça.
Mais la taxe carbone est un symbole.
Elle est peut-être un symbole, mais ça commence par là. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une contradiction dans les demandes qui sont faites, c'est-à-dire que personnellement, on est tous convaincus que le réchauffement climatique est un problème majeur, qu'il faut traiter, qu'on ne peut pas laisser ça continuer comme ça marche. Et donc, il faut savoir réduire notre consommation de carbone. Et quand il y a nos dirigeants politiques qui disent « Ok, on a compris, on va mettre une taxe carbone », et je vous avais dit dans une émission précédente que le vrai problème est là, et c'est le problème que n'avait pas traité la COP21. C'est pour ça que moi, je trouve que la COP21 avait été un échec. Parce que justement, ce vrai problème, il l'avait mis de côté parce que c'est un problème qui fâche. On voit bien que c'est un problème qui fâche. Dès qu'on augmente le prix du carbone, le prix de l'essence ou le prix du gasoil, c'est la révolution.
Anne de la Doucette.
Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que les gens qui défilent dans la rue, c'est des gens qui travaillaient. C'est pas des gens qui touchaient des allocations. Parce que ces gens-là, ça serait plus facile pour eux souvent de toucher des allocations. J'habite à la campagne. Je viens de passer hier une journée à remplir une benne d'ordures avec un artisan. On a beaucoup discuté. C'est pas un fou furieux. Ça fait 20 ans que je le connais. Il est parti défiler avec les filets jaunes. Il dit « on ne s'en sort plus ». Donc, c'est plus simple pour nous d'être à l'aise.
Mais là, c'est pareil, si je me permets, vous dites « les gilets jaunes, en général, c'est des gens qui travaillent ».
C'est des gens qui travaillent, mais qui ne s'en sortent plus. Parce qu'ils habitent dans un petit village, dans un truc, ils vont travailler à 40 km, ils sont payés le SMIG, ils ont 400 euros pour vivre. 400 euros d'essence, quand il leur reste 700 euros pour payer leur chauffage, leur logement et ça, ils ne s'en sortent plus. Ils ne s'en sortent plus. Et moi, je crois qu'une élite, peut-être que j'ai été élevée comme ça, je suis aristocrate, j'ai été élevée comme ça, il faut dire les choses comme ça. Eh bien, l'élite, elle est responsable du bien commun et elle est responsable des plus pauvres. Et à partir du moment où des gens vont dans la rue en disant « on ne peut plus travailler, c'est plus possible, on ne peut plus vivre », eh bien, ce n'est pas décent de dire ce qu'on leur a dit. Je trouve que la colère me paraît légitime.
Ce qu'on leur a dit, en l'occurrence, vous parlez donc du gouvernement et des positions
de
Emmanuel
Macron. Oui, on ne dit pas les gens qui fument des clopes et qui roulent en diesel. Je veux dire, je roule en diesel, je voulais changer ma voiture, je ne vais pas changer ma voiture. Peut-être parce que j'ai été élevée comme ça. On est responsable, quand on a eu la chance d'avoir toutes les chances qu'on a eues, nous, on est responsable de ces gens-là. Donc voilà, ma position, elle est là.
Bon, il y a juste une chose, j'aimerais juste citer un élément pour peut-être relancer le débat, et c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est que le journal La Croix, alors je ne sais pas si le journal La Croix, il y a beaucoup de journalistes qui connaissent des gilets jaunes ou pas, non mais j'adresse cette pique à l'égard de nous tous, c'est qu'on pouvait lire en fait une du journal La Croix le 21 novembre, qui expliquait qu'en fait le pouvoir d'achat des Français n'avait pas été tant impacté que cela, en tout cas pour les classes moyennes, pour les plus riches, ou pour une partie des plus défavorisés. Bref, s'attendait un petit peu à objectiver ou à tempérer cette grogne sociale. Et puis, je crois, 2-3 jours après, ils sont allés sur le terrain en Seine-et-Marne, où j'ai appris qu'en Seine-et-Marne, il y avait 20% de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté. Mmh. C'est quand même aux portes de Paris. Et là, mis bout à bout, le témoignage d'une telle, d'un tel et d'un tel, eh ben, on sort des stats et on se rend compte qu'il y a des gens vraiment qui en souffrent.
Il y a un mois, j'ai eu Gilbert Dandrieu qui est venu à la maison. Vous savez, Gilles Bernadette, c'est ce journaliste de gauche qui faisait les campagnes électorales des présidents de gauche. Un jour, il en a eu marre. Et il a fait 1800 km à pied à la rencontre.
Il était journaliste à Marianne et il a écrit un livre, Le peuple des frontières.
Absolument. Et je l'ai eu à la maison parce qu'il est venu par une... Voilà, on y est venu. Et bien, ce type-là, il a compris. Il a été sur place, il a compris. Moi, tous mes amis parisiens, comme j'étais parisienne, je suis dans un cabinet ministériel aussi, il y a 30 ans, eh bien, tous n'ont pas compris.
Alors, dites ce qu'il a découvert, peut-être.
Eh bien, il a découvert ce que disait Jean Zernemann. C'est que les gens ne s'en sortaient plus, que les villes de province étaient en train de mourir. On n'a fait plus d'aménagement du territoire depuis 30 ans. On ne s'occupe plus de ces... On fait des déserts en France. La France, ce n'est pas juste les métropoles. C'est aussi, on a besoin de nos paysans, on a besoin de nos agriculteurs, on a besoin d'artisans, on a besoin de tous ces gens-là.
Il a découvert ce peuple des frontières.
Et il a découvert ce peuple des frontières.
Marine Le Pen aux élections présidentielles.
Parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. En proposant leur autre chose, et ils voteront autre chose.
Tanguy-Marie Pouliquen.
Alors, une question qui est, pour faire le lien entre les mesures d'augmentation du pétrole, ici c'est l'essence, le gasoil, c'est que seulement 15% de l'augmentation sera affectée à la transition.
C'est ça,
énergétique. Ça, c'est un chiffre qui, je trouve, qui est très inquiétant. Parce qu'on dit, ah oui, hein, 15%. 15% dont l'essentiel sera affecté aux questions des panneaux solaires. Pour citation dans La Croix du lundi 26 novembre 2018. Donc, ce qui est intéressant en termes de pédagogie de politique publique, c'est qu'il y a une cohérence entre le discours et les faits. Et les gens veulent bien faire des efforts. Hein, ils veulent bien que tout le monde fasse des efforts et répartit de manière équitable, mais que le discours rejoigne la réalité.
Voilà. Alors, il y a eu quand même un petit effort, en tout cas, qui a été annoncé par Emmanuel Macron. C'est qu'une partie des recettes de la TICPE pourrait être diminuée si le gasoil continue à augmenter, et ce, à partir du 1er janvier. On parle d'un manque à gagner pour l'État d'un milliard. Voilà.
Oui, je voudrais réagir de plusieurs façons. D'abord, c'est une erreur.
Anne de la Doucette a rencontré un gilet jaune. Est-ce que vous en avez rencontré un?
J'en ai
bien
rencontré
sûr,
des dizaines. Hein,
qui
dizaines,
n'en a pas rencontré, bien sûr. J'ai discuté avec des gilets jaunes.
On en a accueilli deux au monastère qui avaient du mal à dormir.
Mais bien sûr que...
Tellement ils étaient énervés ou...
Non, gilets jaunes, figure migrant quand même.
Bon, mais revenons sur la question. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Anne de la Doucette sur le fait que c'est pas des inactifs qui vivent d'aide sociale ou de subventions qui manifestent. C'est des gens qui ne peuvent plus s'en sortir. Et ça, c'est un vrai problème. Et là-dedans, on est responsable collectivement parce qu'on a fait des politiques qui sont de graves erreurs depuis des décennies et des décennies. Et la gauche en peut-être encore plus que la droite sur ce plan-là. Je prends un exemple. On a refusé collectivement de densifier les villes. Moyennant quoi, les gens qui ont des faibles niveaux de revenus, s'ils veulent accéder au logement, ils sont obligés d'aller à 30 km de Toulouse.
C'est d'ailleurs eux justement qui font beaucoup de trajets.
Et c'est eux qui sont les plus pénalisés. Pourquoi? Parce qu'on a refusé, tous les maires de Toulouse y compris, en disant « Ah non, le plan local d'urbanisme, il n'est pas question de laisser construire en hauteur ». Alors on revient là-dessus maintenant, mais enfin il y a longtemps qu'on aurait dû s'en rendre compte. Bon. Alors je reviendrai sur un élément qu'a donné Pierre-Marie Pouliquen, sur lequel, personnellement, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas flécher les ressources de l'État sur des dépenses. Ça, c'est une erreur économiquement de croire que je prélève, je mets une taxe là pour financer ça. Et il ne faut pas rentrer là-dedans parce que, par exemple, la vignette à l'époque, etc.
C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir.
Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. L'État a besoin pour faire fonctionner les services publics et pour avoir un certain nombre de politiques, notamment celle de la transition écologique, a besoin de ressources. Mais il ne faut pas dire il y a une ressource pour une chose et puis les autres. Mais non, c'est un problème
illégal,
global qu'on ne peut pas. Mais bien sûr que c'est illégal parce qu'on sait que c'est une erreur. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas répondre. Je suis bien d'accord.
Voilà,
il faut réduire les dépenses de l'État et on ne sait pas le faire.
En
France, on veut le beurre et l'argent du beurre.
On va faire
on
une
veut pas
pause
que l'État
musicale.
Prélève plus.
Et je vois que le père Tanguy-Marie Pouliquen doit nous quitter. Père Tanguy-Marie Pouliquen, un petit mot à propos de Radio Présence. Pourquoi est-ce que vous venez à cette antenne et pourquoi vous pensez qu'il est important de soutenir cette radio, y compris financièrement?
Tout est dans le nom de la radio. Radio Présence. Augmenter une qualité de présence. Présence de l'homme à lui-même. Présence de l'homme à Dieu. Présence dans une capacité d'être présent à l'autre. Et c'est vraiment la qualité de la présence qui est le cœur du vivre ensemble. Vraiment, je trouve que cette radio nous aide vraiment à être présents les uns aux autres. Et je voudrais lui tirer mon chapeau.
Eh ben, merci beaucoup. On va faire une deuxième pause. Je rappelle les différents moyens de nous soutenir. 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, un site internet www.radioprésence.com, ou si vous n'avez pas eu le temps de noter le numéro de téléphone, ou si vous n'avez pas accès à internet, eh bien, pensez à nous envoyer un chèque. Voilà, il n'y a pas de petits dons. Nous avons vraiment besoin de vous. 4 rue des Feuillants, 31 300, Toulouse.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, donc notre rétrospective mensuelle, et autour du plateau aujourd'hui Bruno Cyr, président honoraire de l'Université Toulousain Capitole, Anne de la Doucette, cofondatrice de la formation Passeur d'Hommes, et Tanguy-Marie Bouliquin, prêtre de la communauté des Béatitudes, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse, qui vous prie de l'excuser car il a dû partir plus tôt que prévu. Dernier sujet, je voulais qu'on parle de la guerre au Yémen. Difficile de résumer cette guerre. En tout cas, on dit de cette guerre que c'est une guerre oubliée ou une guerre occultée. Voilà, dans la différence de termes, ça en dit déjà peut-être un petit peu long. Je vais essayer de résumer. Au printemps arabe au Yémen, il y a eu des soulèvements de population, comme en différents endroits donc du Moyen-Orient. Cela a valu la démission, enfin le président de l'époque, le président Saler, pour citer juste leur nom de famille, a été démis et son vice-président, le président Ali, a été nommé à sa place. S'en est suivie une révolte d'une partie de la population, rébellion houthiste, chiite, faut-il préciser, dans un pays qui est en partie sunnite, qui représente quand même 42% de la population au Yémen. Et cette rébellion houthiste s'est petit à petit propagée dans le pays jusqu'à gagner la capitale et obliger le président Hadi à partir en exil en Arabie Saoudite. Et c'est à ce moment-là que le drame s'amplifie, puisqu'il a été mené depuis mars 2015 une opération qui s'appelle Tempête décisive plus d'une demi-douzaine de pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie Saoudite en tête. Guerre donc civile terrible, avec ingérence de puissances étrangères. On dit que l'Iran est derrière la rébellion houthiste et l'Arabie Saoudite, grand pays sunnite. Au final, c'est 8 millions de personnes qui aujourd'hui pourraient souffrir potentiellement de la famine, plus de 10 000 morts, et encore ça c'est des chiffres bas, et on parle de crimes de guerre. Est-ce là une guerre oubliée ou occultée, et pourquoi est-elle occultée, Bruno Cyr?
C'est d'abord un drame humain, ce qui se passe au Yémen. Le Yémen est un pays pauvre qui a absolument besoin d'importer une grande partie de ses besoins de nourriture en particulier.
C'était déjà le cas avant la guerre, 90% de la nourriture et des médicaments.
Or, en novembre 2017, l'Arabie Saoudite et ses alliés sunnites ont fait un blocus du Yémen en bloquant les ports d'approvisionnement et donc ils ont affamé la population. Et aujourd'hui, alors moi j'ai pas les mêmes chiffres que vous, j'ai retenu qu'il y avait 12 millions, mais c'est difficile à évaluer, sur 30 millions d'habitants à peu près. Il y a 18 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire et il y en a 12 millions qui sont mal nourries, mal nutries, donc avec des morts tous les jours. Donc c'est vraiment un drame humain. Bon, alors c'est vrai qu'on en parle peu.
C'est des chiffres considérables.
Ah mais c'est des chiffres considérables, affolants et dont on ne voit pas la solution. Et encore, je ne vous parle pas des 16 millions sur 30, c'est-à-dire quasiment une personne sur deux qui n'a pas accès à de l'eau potable. Donc avec des risques d'épidémie, en particulier le choléra qui est en train de se développer à la vitesse qu'on veut.
Alors on dit que c'est une guerre froide locale, donc entre les deux géants que sont donc l'Arabie Saoudite sunnite et l'Iran chiite. Mais pourquoi cette guerre est-elle oubliée? Pourquoi est-ce qu'on en parle pas plus?
Alors pourquoi cette guerre est oubliée
chez nous?
Ben parce que on est dans une période de repli sur soi des grandes puissances et on se regarde le nombril et on oublie de regarder ce qui se passe dans le reste du monde. Je trouve ça dramatique. Et je trouve ça dramatique parce que les grands médias sont le reflet, j'accuse pas les médias, mais les médias sont le reflet de ce que pensent nos dirigeants politiques. Et nos dirigeants politiques, leur seul problème, c'est America first, Europe doit se défendre, la Chine ceci, la Russie cela, on ne parle que de ça, et on oublie ce drame humain. Et alors, il faut qu'il y ait un drame comme celui qu'on a connu en Turquie avec l'assassinat d'un opposant en Arabie Saoudite, pour que tout d'un coup on se dise
Jamel
mais l'Arabie
Khashoggi,
Saoudite voilà,
étranglé et démembré au consulat d'Arabie Saoudite de Turquie le 2 octobre dernier.
Il faut qu'il y ait un drame comme ça pour que tout d'un coup on ouvre les yeux en disant ces gens-là sont pas forcément des gentils. Et effectivement cette guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui se passe sur un terrain d'opération qui a une frontière de près de 1000 km je crois entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, donc évidemment, l'Arabie Saoudite n'a pas envie que les chiites, la religion chiite se développe là. On sait qu'ils sont extrêmement, que c'est un État où c'est la religion qui domine. Il n'y a pas du tout de séparation entre l'Église et l'État. Et donc, bon, voilà, il y a un peu derrière une guerre de religion. On sait qu'elles sont dramatiques souvent. L'histoire l'a montré. Ben là, c'est le cas. Et on est un peu impuissant.
Trois cycles de négociations menés par l'ONU, mais le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'est jamais saisi du sujet. Alors, je repose ma question. Pourquoi cette guerre est-elle oubliée ou occultée, Anne de la Doucette?
Moi, je crois que c'est parce qu'elle dure depuis tellement longtemps. Parce que dès les années 60, le Yémen a toujours été une terre, un peu comme le Vietnam. On l'appelait le Vietnam du Moyen-Orient. Ça a été toujours une terre de conflit entre puissances étrangères. Au début, il y avait les Égyptiens d'un côté et les Russes, alliés avec les Russes, d'un côté l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Donc c'est une terre, un emplacement stratégique pour le passage du pétrole, et que personne ne veut que l'autre ait la main dessus. Donc, Je vois pas comment ça va se régler. Parce que de toute façon, les uns et les autres...
Je pense qu'il y a une dimension religieuse aussi.
Laissez-la finir.
Oui, il y a une dimension religieuse, sûrement. Ouais. Il y a le clan chiite et le clan sunnite, ouais. Les intérêts géopolitiques des Russes et des Américains. Et en fait, le Yémen, tout le monde, c'est terrible à dire, mais tout le monde s'en fiche. Il y a quand même 85 000 enfants qui sont morts en 2 ans de malnutrition. Donc, c'est pas le problème, quoi. Le problème, c'est comment... c'est un espèce de jeu de dames, d'échecs, entre deux groupes de puissance qui veulent assurer leur mainmise sur la région.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre raison au fait que ce conflit soit oublié ou occulté ? C'est une forme de culpabilité occidentale qui s'est quand même ralliée, plus ou moins, en tout cas au début, derrière cette fameuse opération Tempête du désert, si je ne me trompe pas, Tempête décisive, pardon. Autre fait, derrière le fait, et je le disais en début d'émission, que l'Arabie Saoudite et la coalition qu'elle emmène, je vais citer les autres pays, Jordanie, Égypte, Soudan, Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis et Maroc, on l'oublie parfois, sont armés par les puissances occidentales et en partie par la France. Deuxième pays d'exportation des armes pour les Français. 9 milliards de contrats entre 2010 et 2016. Est-ce que, pour poser la question de manière plus brute, est-ce qu'on mange dans la main de ces gens-là parce que, tout simplement, c'est eux qui nous nourrissent?
Il est clair qu'il y a de multiples variables qui expliquent notre discrétion. Il y a ça, il y a bien sûr le pétrole quand même que produit l'Arabie Saoudite en grande quantité et qui est quand même encore notre cordon ombilical essentiel pour qu'on continue à pouvoir se développer ou tout simplement vivre normalement. Donc ça, évidemment, l'Arabie Saoudite a des armes économiques stratégiques qu'on ne peut pas oublier dans l'équation. Et puis le Yémen est avec cette frontière commune avec l'Arabie Saoudite. Quand l'Irak a envahi le Koweït à l'époque, on est intervenu, on voit ce que ça a donné. On est intervenu en Libye, on voit ce que ça a donné. Donc là, je pense que les puissances occidentales sont un peu échaudées et effectivement se disent, on ne va peut-être pas aller mettre le nez dans cette poudrière. Mais le Yémen, c'est loin. Les détroits ne sont pas impactés par le Yémen, un peu le détroit de la
les
mer.
Russes,
de,
cas,
bon,
oui.
Mais de l'autre côté, il y a le golfe d'Oman. Et donc Oman est un pays stable et tout le monde se débrouille pour que... Il y a le Qatar et les Émirats Arabes Unis qui là pacifient l'ensemble. C'est extrêmement difficile aujourd'hui d'aller se mettre contre l'Arabie Saoudite. Clairement, c'est l'Arabie Saoudite qui est dans le jeu là. Et l'Iran de l'autre côté. Alors on voit que Trump a clairement fait alliance avec l'Arabie Saoudite en suivant ses prédécesseurs contre l'Iran, mais une fois qu'il a fait quelques grandes déclarations, ça va pas beaucoup plus loin, donc c'est extrêmement difficile.
Eh ben, j'en prends l'engagement, on reparlera du Yémen parce qu'on ne l'avait pas fait jusque-là, donc on n'avait pas forcément mieux fait que les autres. Je citerai juste ce chiffre. L'Arabie Saoudite, on l'oublie, figure en 164e position sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse. Voilà, c'est pas non plus un pays réputé pour être d'une grande liberté, et ce, à tous les niveaux. Pour finir, Anne de la Doucette, quel serait votre mot à l'égard de nos auditeurs? Nous sommes, je le rappelle, en plein radiodon. On s'est fixé la barre de 40 000. On essaye de faire des bonnes émissions. On se donne un mal fou. Vous acceptez de participer à cette antenne de temps à autre. Pourquoi faut-il nous soutenir financièrement?
Alors, deux choses. D'abord, j'aime beaucoup la dimension spirituelle. C'est que c'est important pour moi et qui irrigue le côté tout à fait humain de cette radio. Et la deuxième chose, c'est que c'est une radio très libre. On peut s'exprimer librement. Bruno est un ami, on s'étripe un peu, on n'a pas les mêmes idées, mais ça reste toujours courtois et on est libre de s'exprimer. Et c'est, je pense, de moins en moins courant que dans une radio, les gens ne s'auto-censurent pas avant de venir. Je sais que, voilà, le respect, c'est le vrai dialogue. Et ça, c'est très très important dans une radio. Et ça devient de plus en plus rare. Et on vous remercie pour ça.
Eh ben, merci beaucoup. Si vous voulez qu'on continue à inviter qu'on continue à inviter des personnes qui se sentent libres de dire ce qu'elles veulent dire et parfois de dire ce qu'elles ne peuvent plus dire ailleurs aussi, on peut le dire aussi comme ça. Eh bien, soutenez-nous. On a vraiment besoin de vous. Je rappelle les différents moyens pour nous soutenir. Un numéro de téléphone 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Notre site internet radiopresence.com ou un chèque aux 4 rue des Feuillants 31 300 Toulouse. Merci. merci beaucoup de votre soutien. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.